que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Pour avoir des enfants, certains couples recourent à la fécondation in vitro. D'après les experts, cette technique permet de résoudre le problème d'infertilité dans le couple. En quoi consiste cette méthode et quelles sont les chances de réussite de la fécondation in vitro? Quels sont les risques et avantages? Docteur Antoine Modia est gynécologue, obstétricien et spécialiste en fertilité. Il est notre invité aujourd'hui. Docteur, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question, c'est quoi la fécondation in vitro?
Mais je crois qu'il faudra que je commence par vous rappeler que la fécondation in vitro fait partie de ce qu'on appelle des techniques. C'est un groupe de techniques qui font partie des techniques de l'assistance médicale à la procréation. En fait, la fécondation in vitro elle-même, c'est l'une des techniques. Mm-hmm. Mais je voudrais quand même, avant de pouvoir vous expliquer ce que c'est, vous dire comment se fait la procréation, évidemment.
Mm-hmm. D'accord, allez-y, oui,
bien sûr. C'est une assistance à la procréation. Oui. Et la procréation pour une femme, prenons la femme parce que je suis gynéco, on commence par la femme, mm-hmm. Eh bien, la femme doit avoir une matrice. La matrice est le lieu où doit se développer le futur bébé. Donc, c'est l'embryon. Mm-hmm. C'est dans la matrice, dans la muqueuse de la matrice. Et la femme doit avoir ses trompes. Parce qu'en fait, les trompes, ce sont des tuyauteries qui mettent en communication la matrice et les ovaires étant les usines où se fabriquent les œufs, qu'on appelle les ovocytes chez la femme. Et donc, toute cette machinerie doit être correctement, disons, organisée et fonctionnelle. Mais tout ça est commandé par les cerveaux. Donc, il y a une partie du cerveau qui commande la reproduction et qui se situe dans des glandes qu'on appelle hypophyses et hypothalamus. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Mm-hmm. Et l'homme, évidemment, pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait rencontre entre ce qu'on appelle les cellules germinales de l'homme et l'œuf. Qu'on appelle l'ovocyte dont je parlais tout à l'heure. Mm-hmm. Et ça, l'homme a une usine qui est en dehors de son corps, dans une poche qu'on appelle des testicules. Et cette usine là, fabrique les spermatozoïdes. Qui sont
c'est pas cellules. La prostate qui fabrique...
Ce n'est pas la prostate qui fabrique le spermatozoïde. La prostate, c'est comme disait quelqu'un ici, c'est la salle de musculation. J'ai appris ça, j'ai suivi une émission. C'est là où le spermatozoïde sont capacités. Mais l'usine de fabrication, c'est dans les testicules. Okay. Et les testicules mettent les spermatozoïdes en marche dans les canaux qu'on appelle les canaux déférents jusqu'au niveau de la prostate. Mm-hmm. Et au moment de l'éjaculation, alors les spermatozoïdes sont injectés, donc charriés par les spermes. Les spermes, c'est les liquides qui contiennent les spermatozoïdes.
D'accord.
Et donc, la prostate participe à la sécrétion de ces liquides.
D'accord.
Voilà. À ces moments-là, et lors de rapports sexuels, mm-hmm. il y a rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovocyte, c'est la fécondation. Elle se fait au niveau de la trompe, dans le tiers externe de la trompe.
Okay.
Et à ce moment-là, une fois que l'embryon est fabriqué, eh bien, l'embryon fait marche arrière.
Et cela se fait tout de suite après les rapports sexuels ou bien ça prend du temps?
Non, mais écoutez, il faut dire que lorsque une femme ovule maintenant, elle est encore fécondable pendant 6 heures. Et si 6 heures passées, l'ovule n'est plus fécondable, 12 heures plus tard, l'ovocyte meurt. Donc, ça peut se faire immédiatement, mais la chance, c'est que, bon, les spermatozoïdes, eux, vivent un peu plus longtemps. Ils sont fécondants plus de 72 heures. Même si vous avez eu des rapports hier, la femme peut être fécondée aujourd'hui, même si elle n'a pas eu des rapports ce matin, tout simplement parce que les spermatozoïdes sont encore fécondants pendant au moins 72 heures.
Okay.
Donc c'est ça, voilà. Et puis, tout ça marche bien, la procréation ne pose aucun problème. C'est-à-dire les trompes sont perméables, la matrice fonctionne normalement, les ovaires pondent, comme on dit, les ovulations en fait, et que l'homme a des spermatozoïdes, n'a pas que les spermes, parce que les spermes, c'est ne que contenu, on peut considérer les spermatozoïdes comme l'eau dans une rivière.
Voilà.
donc le poisson dans une rivière, je vais dire.
Les spermes, c'est les contenants.
C'est les contenants. Les contenants. Donc on peut avoir autant de spermes qu'on veut, mais s'il n'y a pas de spermatozoïdes dedans, il n'y a rien qui se passe.
Il n'y a pas de fécondation.
Alors les techniques, la procréation médicalement assistée sont venues résoudre les problèmes de couples qui posent des problèmes justement de cette procréation.
Qui n'arrivent pas à avoir des enfants.
Qui n'arrivent pas à avoir des enfants pour une raison simple, que l'un des organes dont je viens de vous parler pose problème. Et surtout, habituellement en Afrique, ce sont des trompes. Et en Europe aussi, parce que la technique est partie de là. On s'est rendu compte que certaines femmes, oui. Pour des raisons diverses, que je ne vais pas développer peut-être ici parce que je n'ai pas le temps, eh bien, ont des trompes bouchées. Et si les trompes sont bouchées...
Complètement bouchées.
Complètement bouchées, de deux côtés, ou alors les trompes ont été enlevées par mégarde au cours d'une intervention. Par exemple, les gens qui vont subir des interventions, soi-disant pour des kystes, et puis on enlève les trompes par mégarde. Ou alors, si à la demande du couple, à un moment donné, ils ont suffisamment d'enfants, ils demandent une ligature des trompes, et à ce moment-là, les trompes sont bouchées. Mmh. Et bon, bah, pour une raison ou une autre, le couple peut dire, mais tu sais, maintenant, j'ai besoin d'un enfant parce que je viens d'en perdre un. À ce moment-là, on peut plus rien faire. On peut soit... Bon, il y a une technique, hein, là, on appelle la microchirurgie de trompes pour essayer de rendre les trompes de nouveau perméables.
De les déboucher.
Les déboucher. Mais pour le moment, on recourt à la fécondation in vitro. La technique la plus usitée dans ces cas-là, lorsque les trompes sont bouchées, s'appelle ce qu'on appelle la fécondation in vitro et transfert embryonnaire. Je vais expliquer.
Alors, comment ça se passe exactement?
Mais ça se passe comment? Parce que comme il y a un obstacle, il faut donc court-circuiter l'obstacle. Ça signifie que pour qu'il y ait procréation, je vous ai dit, il faut rencontre à l'intérieur de la femme, dans son corps, dans la trompe, et qu'il y ait rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à la femme, on force la femme à pondre, entre guillemets, à donner beaucoup d'ovocytes, de œufs. Je vous rappelle que, naturellement, une femme ne peut donner qu'un œuf par mois. Et puis d'un côté à
alors
la fois.
comme elle a deux
elle peut
deux
donner
ovaires,
elle peut oui ça elle peut donner deux qu'elle peut donner deux parce que c'est pour ça qu'il y a des faux jumeaux
d'accord
c'est pour ça qu'il y a des faux jumeaux okay. Mais le même ovaire peut sortir deux œufs aussi hein ce n'est pas un problème. Alors je voudrais dire que la technique elle consiste à pouvoir pousser la femme à pondre plusieurs œufs à la fois et à un moment donné ça s'appelle donc stimulation ovarienne, c'est la première technique, c'est donc la première étape et la deuxième étape c'est d'aller chercher les œufs.
On la stimule avec à l'aide de quoi?
Avec des médicaments, les hormones. D'accord. Parce qu'en fait, je n'ai pas expliqué comment s'est fait l'ovulation, mais c'est comme ça. On donne les hormones que la femme utilise naturellement, et on donne ça de l'extérieur, artificiellement. Et ces hormones viennent alors booster la fécondation, disons l'ovulation, avec la possibilité d'avoir plusieurs œufs, plusieurs ovocytes à la fois.
Okay.
Et comme on ne peut pas les utiliser là-dedans, parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de possibilité de rencontre, parce que la trompe est embouchée, et nous allons avec l'échographie endovaginale, maintenant on peut faire des échos, pour aller regarder les ovaires, regarder les œufs, s'ils sont presque mûrs, parce qu'on doit donner d'autres médicaments, on donne un autre médicament pour déclencher l'ovulation.
D'accord.
Mais avant que les œufs ne se déversent dans le ventre de la femme, parce que ça devient impossible, on va les chercher dans les ovaires. Ça s'appelle ponction ovocytaire. Donc avec une sonde échographique, avec des aiguilles, on va aller prendre les ovaires à l'intérieur du ventre, à l'intérieur des ovaires. On sort les œufs dehors.
Les ovules.
Oui, les ovules. On les sort dehors.
Ces ovules ont quelle dimension?
Oh, c'est des choses microscopiques, hein, 60 microns, des choses comme ça. C'est pas très, très, très grand. On le voit pas.
On les voit, on peut pas les voir.
Non, on le voit pas les nus. Tout ça, c'est fait sous microscope, sous loupe.
Okay.
Alors, on prend, même les spermatozoïdes, on les voit pas les nus. Il faut les regarder au microscope. Alors, tout ça, c'est microscopique. Et on prend ces ovocytes, on met dans une éprouvette. C'est pour ça qu'on parle de bébé éprouvette.
Alors, mais c'est quoi une éprouvette?
C'est un verre, c'est un tube en verre, et là-dedans, avec un liquide qu'on dit de un milieu de culture, et on met...
C'est comme les tubes qu'on utilise dans les labos.
Ah, vous avez déjà vu les tubes qu'on utilise dans le labo, on met les urines, on peut mettre pour
le sang,
on peut mettre le sang, c'est exactement les mêmes tubes, et là-dedans, on met les ovocytes et les spermatozoïdes. Et donc, la fécondation s'est faite non plus à l'intérieur du corps de la femme, non plus dans la trompe, elle s'est faite dans le verre. Donc, c'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Donc,
alors, j'imagine que dans ces verres-là, ces tubes-là, on recrée l'atmosphère qui peut
donc
se retrouver dans
un milieu
dans
de culture, exactement. Mmh. Et après, quand on a mis tout ça là-dedans, on remet ces tubes-là avec le cellule germinale de l'homme et de la femme, donc le spermatozoïde et l'ovule, on remet les tubes dans une matrice artificielle qu'on appelle incubateur. okay. incubateur. Mmh. Et c'est là-dedans, 48 heures après, qu'aura lieu l'ovulation. Et nous allons avec le loop, on regarde s'il y a des embryons. Alors, on prélève les embryons. C'est pour ça qu'on appelle fécondation in vitro et transfert embryonnaire. Une fois que les embryons sont créés dans le tube, on les prend et on les remet dans la matrice de la femme. Ça suppose ici que la matrice est correctement fonctionnelle et que la matrice ne pose pas de problème. Parce que la fécondation in vitro, dans ces conditions-là, ne peut se faire que lorsque la matrice est réceptible.
Ok, donc on remet ça dans le ventre de la femme.
On remet ça dans sa matrice et la grossesse se met en route normalement comme si c'était naturel.
Et donc, comment se fera l'anidation? Parce que généralement, après la fécondation, l'ovule vient se nider dans
mais
la matrice.
Mais justement, l'anidation s'est fait parce que pendant les jours qui précèdent la ponction ovocytaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui. on donne à la femme les hormones qui préparent la muqueuse, qui préparent les lieux, parce que chaque mois, en fait, naturellement, une femme s'attend à avoir un bébé. Et l'anidation, comme vous dites, elle s'est faite que parce qu'il y a eu un jeu d'hormones qui ont préparé le matelas où doit venir nicher l'enfant.
L'enfant, bien sûr.
Et, mais nous faisons exactement la même chose. On donne à cette femme les hormones pour que la matrice ait au moment opportun de l'ovulation. Et d'ailleurs, qu'on peut alors à ce moment-là réimplanter les embryons sur une matrice complètement préparée et à cet effet.
Bien. Fécondation in vitro, risque et avantage. Vous êtes laissé. Si ce sujet vous intéresse, n'attendez pas les dernières minutes. Composez déjà le 081-890-63-94 pour participer. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Fécondation in vitro, risques et avantages, docteur Antoine Modia, gynécologue, obstétricien et spécialiste en fertilité, l'invité d'Okapi Service. N'attendez pas les dernières minutes, le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94, appelez-nous et nous allons juste vous rappeler pour participer à cette émission. Un auditeur déjà en ligne depuis Lubumbashi, il s'appelle Kalo Kalonji. Bonjour Kalo. Bonjour Kalo. Alors, Kalo, le niveau est tellement bas, on n'arrive pas, on vous entend pas correctement. Bon, essayez de nous rappeler peut-être avec un autre téléphone, peut-être que la communication sera bonne cette fois-ci. Alors, docteur Antoine Maudier, nous poursuivons. Alors, vous faites l'anidation et après...
Nous faisons la réimplantation. Donc, nous remettons l'embryon dans la matrice. Et l'embryon se débrouille maintenant lui-même naturellement pour se nicher, pour se nider dans la matrice. À ce moment-là, le processus redevient tout à fait naturel.
Alors, comment vous faites, vous procédez pour avoir les spermatozoïdes, la semence masculine?
Okay. Au même moment que nous demandons à la femme de pouvoir prendre les médicaments, et nous faisons des analyses chez l'homme pour d'abord voir si cet homme a des spermatozoïdes, ça c'est la première chose.
Mmh. Et si parce que certains n'en ont pas.
Ah ben, il y en a qui n'en ont pas, ce sont des azoospermiques, comme on appelle. Oui. Une azoospermie, c'est une absence totale de spermatozoïdes. Mmh. Il y a beaucoup d'hommes d'entre nous qui n'ont pas. Okay. C'est pour ça qu'il faut se faire voir de temps en temps pour voir. Ou alors on en a, mais on n'en a pas beaucoup. Ou alors on en a, mais ils ne sont pas assez mobiles. Voilà, okay. Exactement. Mmh. À ce moment-là, tous ces examens sont faits à l'avance. Et au moment où nous faisons la ponction ovocytaire, nous demandons à l'homme de se présenter au cabinet. Et on lui donne une pièce où il va se masturber, malheureusement, parce qu'on ne peut faire ça que comme ça. Et nous obtenons tout le sperme et nous allons analyser le sperme et on prépare ces spermes. On va à ce moment-là capaciter le spermatozoïde et chercher les spermatozoïdes les plus mobiles, les plus fécondants. Et on peut prendre 5 millions. Vous savez que par éjaculation, il y a 250 millions, jusqu'à 250 millions.
250 millions.
Millions par millilitre. Hein. Donc, alors, cela, on a besoin de 5 millions, pas plus. Nous prenons ces 5 millions, nous les déversons dans l'épouvette où se trouve déjà l'ovocyte. Mmh. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous savez bien qu'un seul spermatozoïde parmi les 5 millions va pouvoir féconder.
Il semble que c'est le plus puissant.
Ben, j'espère. Dans la vie, c'est comme on dit, la vie, c'est un combat. C'est le plus rapide, le plus puissant.
Le plus rapide, le plus puissant.
Qui arrive. Et une fois qu'il est entré dedans, c'est fini et la porte se ferme.
Oui.
Alors, maintenant, la technique est allée plus loin. moi. Donc, vous savez qu'on peut avoir tout ça, on met tout ça ensemble, on met les ovocytes, les ovules, ensemble avec les spermatozoïdes, ils se regardent et il n'y a pas de fécondation. Parfois, ça arrive.
Ah, ça arrive.
Hein. Ça arrive naturellement. C'est pour ça que sinon, on serait à 100% fécondant. Et il arrive que, malgré la présence de ces murs de spermatozoïdes, qu'il n'y ait pas de fécondation, malheureusement. Et il faut dire que les échecs, parce qu'on va parler d'échecs, on va parler de tout ça, qu'on peut commencer déjà là-bas. Mmh. Alors maintenant, la technique est allée plus loin. Elle est allée plus loin. Maintenant, on peut prendre, même si l'homme n'a pas beaucoup de spermatozoïdes, s'il a un seul spermatozoïde fécondant, on peut prendre ces spermatozoïdes et l'injecter de force dans l'ovocyte.
Donc, vous faites du forcing.
Du forcing. Donc, on peut forcer la fécondation.
On peut forcer la fécondation.
Voilà.
Un instant, le temps d'accueillir Love Boula qui nous appelle de Kananga. Bonjour, Love.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Ok, ma question est la suivante. Monsieur, vous êtes en train de parler de la fécondation in vitro. Alors, ma question, c'est celle-ci. Supposons alors le cas d'un homme, peut-être qu'il y a des spermatozoïdes qui sont anormaux. Peut-être parce qu'on nous a quand même appris que les spermatozoïdes normaux doivent quand même avoir une certaine mobilité. Alors, supposons que les spermatozoïdes sont immobiles alors. Est-ce qu'avec cette technique, ça permet aussi quand même de résoudre les problèmes de stérilité chez l'homme? Et en plus, et cela, j'aimerais encore demander à l'invité une question qui est aussi encore pertinente. Bon, prenons le cas alors d'un homme ou bien d'un enfant qui parvient à être né par cette technique-là. Lorsqu'il est dans le monde, sera-t-il différent des autres personnes ou bien, bon, peut-être, il sera le même. C'est un peu ma question.
Bien, merci Love. Kalo Kalonji, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Désolé Kalo, le niveau de votre téléphone est trop bas, on vous écoute pas, on vous entend pas, presque pas. Désolé, peut-être changer de téléphone et puis rappelez-nous. Docteur Antoine, vous avez suivi la question de Love de Kananga.
Oui, oui, bien sûr.
Et qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Mais écoutez, l'une des indications de l'assistance médicale à la procréation, c'est la fertilité chez l'homme. Donc là, il vient de parler des cas d'un homme qui n'aurait pas assez de spermatozoïdes ou qui aurait des spermatozoïdes qui ne sont pas très mobiles, immobiles. Mmh. Oui. Je vous ai dit que dans ces conditions-là, il faut d'abord soigner l'homme. Ça, c'est clair. Mmh. Mais je vous ai dit que les techniques actuelles peuvent, comme il y a des millions et des millions, parce que c'est un pourcentage. Lorsqu'il y a un problème, une pathologie à 100%, ça devient un problème. Oui. Mais lorsqu'on a 250 millions de spermatozoïdes et que là-dedans, il y a 20% qui sont mobiles, OK, c'est déjà pathologique, mais l'assistance médicale à la procréation peut nous aider à choisir ceux qui sont mobiles et à les utiliser. Et pas seulement dans le cas de la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, elle est utilisée surtout lorsque la femme pose des problèmes. Mais lorsque l'homme pose des problèmes et que la femme a des trompes perméables, on n'a pas besoin à passer par toutes ces étapes dont je vous ai parlé. Mmh. On fait ce qu'on appelle l'insémination artificielle par conjoint. Par le sperme du conjoint. Mmh. C'est-à-dire que la femme ne pose pas beaucoup de problèmes. On va quand même la préparer un tout petit peu. On va la stimuler pour qu'il y ait au moins deux, trois ovules qui soient fécondables.
Oui.
Donc, qui s'apprêtent à être fécondés. Et à ces moments-là, on demande à l'homme de venir. On prend son sperme. Et là-dedans, on essaie de choisir les spermatozoïdes mobiles, le plus mobile. Les autres, on les laisse tranquilles. Comme je vous ai dit, les plus fécondants, on les prend. Et cette fois-ci, c'est facile. On ne peut pas aller ponctionner les ovocytes. On prend seulement le spermatozoïde dans un cathéter et on va les déposer directement dans la cavité utérine au moment opportun, c'est-à-dire vers la période où la femme doit pouvoir presque féconder, même naturellement être fécondée, doit pouvoir ovuler, je vais dire. À ces moments-là, on met les spermatozoïdes dans la cavité de la matrice et ils se débrouillent eux-mêmes.
Ils se débrouillent pour aller
rencontrer. Donc, on les aide, en fait. C'est pour ça qu'on appelle assistance.
Voilà.
C'est une assistance à se rencontrer. Donc, on peut le faire. Et les enfants qui naissent de la technique fécondation in vitro, de toutes les techniques de l'assistance médicale à la procréation, c'est des enfants tout à fait normaux. Et je vous rappelle que la première fille qui est née au monde, c'était en Angleterre.
Grâce à cette technique.
C'est Louise Brown en 1978. Et cette femme est une femme normale et qui s'est mariée et qui a des enfants. Et depuis lors, des milliers, des millions d'enfants sont nés à travers le monde. Il y a aucun problème. Ce sont des hommes comme vous, des femmes comme celles que nous voyons dans la rue qui n'ont pas de problème. Le taux de malformation n'a pas été exagéré par l'arrivée de ces techniques.
Voilà. Marité Mbombo nous appelle de Kalanga. Bonjour Marité.
Bonjour ma chère Jolie.
On vous écoute.
Je voulais poser une question de savoir à l'invité. Il vient de nous expliquer comment se passe la fécondation in vitro.
Oui.
Et alors, si la femme a subi 3 interventions chirurgicales ou 2 fois, et alors est-ce que ça sera possible qu'elle puisse concevoir ou comment? Et si elle est restée aussi dans le mariage 3 ans sans concevoir, est-ce que ça sera possible?
Et là, cette femme a été opérée de quoi?
Oui, c'est ça.
D'accord. Merci, Marité. Jean-Claude, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, Aliker Bala, Aliker Jean-Claude depuis Bounia.
Quelle est la question, Jean-Claude?
Oui, j'ai une petite préoccupation. Oui, bien sûr, à chaque femme prétend avoir l'enfant après chaque mois, bien sûr. Alors, il arrive parfois que les autres font plusieurs d'années. Dans ce cas, quelle conclusion pourriez-vous tirer en tant que spécialiste du domaine? Car la femme règle normalement. Alors, j'ai une petite question concernant le traitement. Dans ce cadre, quel peut être le traitement approprié pour éradiquer la situation qui peut être nocive pour la femme.
Jean-Claude, j'ai l'impression que votre question n'est pas en cadre avec le thème abordé ici. On parle de la fécondation in vitro aujourd'hui. Quels sont les risques et avantages? Est-ce que vous avez une question particulière qui cadre avec ce sujet?
Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je pense concernant dans le cadre in vitro, je pense qu'il n'y a pas ce cadre-là. Est-ce que la femme peut connaître un cas qui pourrait être plus tard nocif pour elle?
Merci. Docteur Modia.
Oui, merci. Mais écoutez, je crois que j'ai compris la question. Ici, quand une femme, un couple, parce que on parle tout le temps de femmes, oui. La stérilité. C'est une question de couple. Pour avoir un enfant, il faut être deux. Donc, en fait, nous, quand nous recevons un couple qui pose un problème de fertilité, nous ne commençons pas par la fécondation in vitro. Nous commençons par nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous ai parlé des organes de la reproduction tout à l'heure. Nous essayons de pouvoir passer en revue ces organes pour voir si la matrice ne pose pas des problèmes au niveau du col, si la femme a une bonne glaire, parce que je ne vous ai pas parlé, le col de la matrice joue un rôle important parce qu'elle sécrète la glaire qui facilite le passage du spermatozoïde mobile pour qu'il puisse progresser vers la rencontre fatidique avec l'ovule au niveau de la trompe, dans le tiers externe de la trompe, comme je vous ai dit. Donc on regarde tout ça, on fait une radio de la matrice, par exemple, on fait une hystéroscopie, c'est un examen qui consiste à aller regarder à l'intérieur de la matrice s'il n'y a pas de problème.
Évidemment, et on examine également l'homme
On examine évidemment l'homme, si l'homme a une quantité suffisante de sperme, oui. Et si cette quantité suffisante raffème des spermatozoïdes fécondants, mobiles et tout ça. Une fois que nous avons posé le diagnostic, à ce moment, nous nous adaptons. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de passer par la fécondation in vitro. Je vous ai parlé de cas de l'insémination artificielle par conjoint. Et il y a aussi de choses qu'on peut normalement faire. Par exemple, si la femme n'ovule pas, on lui donne des médicaments pour qu'elle puisse ovuler. Et si les problèmes se posent lorsqu'elle commence à avoir des problèmes de trompe, et surtout les problèmes de la matrice. Parce que dans la procréation médicalement assistée, dans le couple, on peut avoir tous les problèmes, mais lorsqu'on a un problème avec la matrice, il y a une dame qui vient de poser la question de la matrice qui a été multi-opérée.
Oui, la femme a été opérée plus de trois fois.
Oui. Alors, à ce moment-là, il y a risque qu'à l'intérieur de la matrice, il y ait des problèmes, qu'il y ait des cicatrices qu'on appelle des sinéchies. Donc, à ce moment-là, les matelas dont on a parlé, qui doit recevoir l'enfant pour la nidation, est complètement abîmé. Et à la place, il y a du muscle. À ce moment-là, il y a de gros problèmes.
On parle souvent des mères porteuses.
À ce moment-là, il faut recourir à demeure porteuse, les vendeuses de ventre. Donc,
on a ces genres de femmes ici.
En Afrique, vous savez, c'est un problème de culture. Il y en a pas beaucoup encore, mais en Europe, c'est monnaie courante. Aux États-Unis d'Amérique, il y a toute une catégorie de dames qui viennent louer. Ça s'appelle la location.
Location de leur ventre.
De leur ventre. Et ça peut aller jusqu'à 50 000 dollars ou plus. Ça dépend de quelle catégorie de femmes vous voulez.
Après la fécondation fécondation
de sperme. Voilà, voilà. Donc, elle accepte, vous avez, elle, voilà. Ouais. Elle doit, donc, en fait, elle accepte l'embryon du couple.
Ok.
Donc, une fois qu'on a sorti l'ovocyte, on a mis ensemble avec les spermatozoïdes dans l'éprouvette, et qu'il y a un embryon, et on l'est de le remettre dans le ventre de sa mère, donc la mère biologique.
La mère biologique qui n'a pas le matelas.
Qui n'a pas des matelas.
Oui, pour recevoir.
Il y en a même qui ont subi une hystérectomie, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de matrice. Mais ses ovaires restaient fonctionnels.
Oui.
Donc, elle peut prendre les œufs, mais elle ne sait pas où mettre son enfant.
Oui.
Et alors, on peut prendre l'embryon de ces couples pour aller les réimplanter dans le ventre de quelqu'un qui a une matrice qui fonctionne et qui est fonctionnelle avec les matelas dont on a parlé, la muqueuse qui est tout
et
à fait...
Et pendant 9 mois, elle va porter la grossesse.
Elle va porter une grossesse normale pendant 9 mois et donner les bébés aux propriétaires, donc aux parents biologiques, à la fin, parce qu'il y a un contrat qui est signé, soit bénévolement, c'est rare, et soit la femme a demandé l'argent, on lui a donné son argent, mais il y a hic, et parfois il y a deux femmes qui trouvent que le bébé est trop beau.
Échange d'avis.
Échange d'avis, et il y a eu des procès pour ça.
Est-ce qu'il y a aussi des vendeurs de sperme, comme il y a des vendeuses de
sperme? Non, les spermes ne se vendent pas, c'est donne. Il y a des donneurs de sperme.
Il y a des
donc, il y a des banques de sperme, parce que, en fait, quand je vous ai parlé de INI, donc, insémination par conjoint.
Mmh.
Il y a aussi ce qu'on appelle insémination par donneur. Et pour cela, il y a de banques de sperme à travers le monde. Il y a des donneurs de sperme. Évidemment, pour être donneur, vous devez être screené, vous devez être examiné de fond à comble, surtout en ce qui concerne le VIH-SIDA, par exemple. Vous ne pouvez pas être accepté comme donneur si vous êtes porteur de maladies telles que l'hépatite, le VIH-SIDA et je ne sais pas quoi d'autre. Et à ce moment-là, on analyse la personne, on les screen, et une fois que la personne est acceptable comme donneur, bon, ben il va périodiquement au laboratoire pour donner son sperme, mais on ne le vend pas.
On ne les vend pas.
Il y a aussi de donneuses de ovocytes.
Des ovocytes également.
Parce qu'il y a des femmes, comme je viens de le dire, si vous avez des problèmes avec votre matrice, vous n'aurez pas d'enfant. Et si vous avez aussi des problèmes avec vos ovaires, vous n'aurez pas d'enfant. À ce moment-là, vous pouvez prendre les ovaires et les ovocytes, je vais dire, et les ovules d'une autre femme qui vous les donne. Et parce qu'il y a aussi des banques d'ovocytes maintenant.
Voilà. Désiré Ampini nous appelle d'un Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Désiré?
Ma préoccupation réside au niveau de l'évolution après la fécondation in vitro, bien entendu.
Oui.
Naturellement, pendant la grossesse, l'échange entre le fœtus s'effectue au niveau du cordon ombilical. Alors, dans les cas qui concernent...
Attendez, un instant, Désiré, qu'est-ce qui se passe au niveau du cordon ombilical?
C'est là où s'effectuent les échanges entre la mère et le fœtus. C'est-à-dire, l'enfant se nourrit à travers le cordon ombilical et il élimine à travers le cordon ombilical.
Ok.
Maintenant, ma préoccupation est de savoir comment s'effectue alors la viabilité d'un fœtus en cas d'une fécondation in vitro. Là, nous n'avons pas la présence du cordon ombilical. Et comment ce fœtus sera nourri, comment ce fœtus va respirer, et comment sera donc la viabilité de ce fœtus?
Merci, docteur Modia.
Mais je crois que là, notre auditeur n'a pas bien compris la technique tout à l'heure. Eh bien, la technique, la machinerie s'arrête au moment où nous avons l'embryon. Vous savez, l'embryon s'obtient à l'extérieur du corps de la femme. Hein, parce que normalement, la fécondation s'est faite dans la trompe, je l'ai dit. Mais étant donné qu'il n'y a pas possibilité de rencontre dans la trompe, dans le corps de la
femme... Cette rencontre s'est faite en dehors.
Elle s'est faite en dehors.
Oui.
Et une fois que nous avons obtenu l'embryon, eh bien, nous remettons cet embryon au moment...
Dans son milieu naturel.
Dans son milieu naturel, et la grossesse se développe comme toute grossesse. Et cet enfant va avoir, parce qu'il me parle des échanges, c'est le placenta, et le placenta est relié à l'enfant par les cordons ombilicales. C'est un enfant tout à fait normal, ça se développe dans la matrice. En fait, à l'époque, les gens croyaient qu'il y avait une grosse matrice dehors, où on voyait grandir l'enfant dans un verre gigantesque. Non,
oui,
non, non.
C'est pas
non
ça.
Ici, ça se passe sur le plan microscopique. Tout ceci est microscopique avant de pouvoir passer à une grossesse. Et cette grossesse évolue normalement, comme toutes les autres grossesses. grossesse avec tous les risques. On peut avoir des fausses couches, on peut avoir des arrêts de grossesse, on peut avoir des malformations, 2% comme naturellement. Donc c'est une grossesse qui évolue normalement dans la matrice de sa mère avec le placenta, le cordon ombilical. Et ça n'a aucune difficulté et nous suivons cette grossesse. D'ailleurs, on l'appelle ça des grossesses précieuses. Elles sont suffisamment bien suivies régulièrement à l'échographie et on fait tous les examens nécessaires pour que cette grossesse aboutisse à un accouchement tout à fait normal.
Docteur Antoine Modia, est-ce que cette technique, la fécondation in vitro, est répandue ici chez nous? Est-ce qu'elle est pratiquée ici?
Nous avons au Congo, heureusement pour le moment, depuis à peu près plus de 10 ans, nous avons un centre de fertilité, de fécondation in vitro, la procréation médicalement assistée, ici au Congo. C'est un centre privé tenu par le docteur Moussikwa, un confrère gynécologue, médecin de fertilité, avec qui je travaille longtemps.
Et ce centre, c'est pour vous,
exactement? C'est Médicis, hein, pour ne pas faire la publicité. C'est le centre Médicis qui se trouve derrière la paroisse de Fatima.
Derrière la paroisse de Fatima. Et j'imagine que ça coûte trop cher, c'est la fécondation in vitro.
Et oui, c'est une technique qui coûte cher parce que, en fait, comme vous savez, le matériel est un matériel sophistiqué, matériel qui coûte cher, mais c'est surtout les médicaments que nous utilisons pour la stimulation qui coûtent cher. Et ces médicaments, évidemment, ils s'achètent, il y a un prix. Donc, même en Europe, je crois que pour un cycle de stimulation, un cycle de transfert, il faut compter entre 2000 à 2500 euros quand même.
2000 à 2500
pour les centres, oui, le moins cher. Et je crois qu'il y a moins cher peut-être ailleurs, mais en tout cas, ça tourne autour de là, de 3000 $, disons 3000-3500 $. Mais il faut quand même compter sur les examens préliminaires. Oui. Je vous ai parlé du fait qu'on va regarder la matrice, on doit regarder si l'homme ne pose aucun problème, ainsi de suite. Et donc tout ça, ça a un coût.
Quels sont les chances des réussites? Est-ce que la réussite s'est fait à quel pourcentage?
Écoutez, il y a deux essais qui ne marchent pas, donc ça arrive, comme une grossesse normale. Donc on a obtenu l'embryon et l'embryon est transféré, mais malgré tout, l'embryon ne se développe pas pour une autre raison. Donc il y a quand même entre 35 à 40% de succès.
Hein. Voilà. Il y a un auditeur nous a écrit, Lubanga depuis Bounia. Lubango, il dit, on peut donc par ce système faciliter, peut-on avoir facilement les jumeaux?
Oui.
La fécondation in vitro?
Mais ça c'est clair, parce qu'en fait, c'est le nombre d'embryons qui compte. À l'époque, on n'avait pas la possibilité de pouvoir garder les embryons, donc il n'y avait pas ce qu'on appelait la cryopréservation. On prenait donc tous les embryons qu'on obtenait et on les remettait dans le ventre de leur mère et on avait de grossesses multiples, les quintuplés, des choses comme ça. Vous savez, vous voulez bien avoir deux enfants, mais si vous en avez cinq à la fois, ça pose un problème. Même l'organisme lui-même n'est pas préparé pour recevoir les cinq enfants du coup. Et depuis lors, on a tendance à pouvoir réimplanter au maximum trois embryons pour qu'il y ait possibilité qu'il y ait un ou deux qui poussent, et parfois les trois. Et les triplés, on peut encore les accepter facilement que s'il y en avait 10 qui se développent au même moment.
D'accord.
Et les autres embryons, maintenant, on a la possibilité de les cryopréserver, donc de les garder.
On va terminer avec la question d'Aimé Minagou, depuis Siro, en province orientale. Aimé, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai des questions sur l'invité. Je voulais savoir en premier lieu, est-ce que la fécondation in vitro, pour qu'elle soit mature, elle fait combien de mois? Parce que je pense que la grossesse maman dit 8 mois ou 9 mois. Concernant la fécondation in vitro, elle dit combien de temps? Et la deuxième est de savoir, la femme qui est née par la fécondation in vitro, est-ce qu'après sa naissance, elle sera normale ou pas?
Merci beaucoup. Elle veut savoir, elle dit qu'une grossesse normale dure 9 mois.
Oui.
Est-ce que pour le cas d'une fécondation
in vitro, c'est une grossesse tout à fait normale.
Oui.
C'est la rencontre de le spermatozoïde et de l'ovule qui se fait en dehors.
En dehors
de ça, une fois que l'embryon est obtenu et on les remet dans le ventre de sa mère, dans la matrice, je vais dire,
oui.
Eh bien, c'est une grossesse, c'est tout à fait normal. Elle va aller jusqu'à 9 mois, 10 mois maximum, et l'enfant qui viendra,
c'est un enfant normal.
S'il y a un degré, un niveau, un pourcentage de malformation, c'est ce que nous avons naturellement. Et lorsque nous avons 100 grossesses normales, naturelles, eh bien, nous arrivons à quand même entre 2 à 3% de malformations. C'est ce qui peut arriver aussi avec les enfants qui ont été obtenus par la fécondation in vitro.
Alors, combien d'enfants a-t-on déjà obtenu grâce à cette technique ici en RDC?
Ben, je ne saurais pas vous donner le chiffre exact. Je crois que c'est une question qu'il faudra peut-être poser au docteur Mossikwa, lui qui a commencé la technique. Moi, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont nés.
Bien, docteur Antoine Modian, gynécologue, obstétricien et spécialiste en fertilité, nous vous disons merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.